Imaginons un instant la scène. On est demain matin, on allume les infos et là, on annonce que la France vient de supprimer l'intégralité de son système d'aide sociale.
Absolument tout, ouais.
C'est ça, tout. Fini le RSA, terminé les allocations familiales, balayé les aides au logement, plus rien.
Et l'onde de choc ne s'arrête pas là, hein.
Ah bah non, parce que l'État supprime aussi, le même jour, toutes ses subventions aux associations et des dizaines de milliards d'aides versées aux entreprises. En gros, le système tel qu'on le connaît, il est rasé.
Totalement rasé, oui.
Et en échange de ça ?
Bah, en échange, chaque adulte vivant sur le territoire reçoit 850 euros par mois. Tous les mois, à vie, sans aucune condition, sans aucun formulaire à remplir.
Franchement, c'est un scénario qui donne des sueurs froides à beaucoup de monde. Que l'on soit un fervent défenseur du modèle social traditionnel ou au contraire un gardien de l'orthodoxie budgétaire.
C'est clair.
Ça ressemble un peu à une expérience de pensée radicale, quoi, presque de la science-fiction économique.
Ouais, on dirait de la science-fiction, mais pourtant, c'est exactement ce qui se trouve sur la table de notre analyse aujourd'hui. On a rassemblé un corpus de documents vraiment denses.
Très denses, oui.
Dont un projet chiffré de plus de 500 milliards d'euros, qui s'appelle le Pacte de l'équilibre. Et il est accompagné de son pendant stratégique, une sorte de manuel de défense face aux critiques.
Le fameux guide anti-détracteur.
Voilà, exactement. Et je précise tout de suite, notre mission ici, c'est absolument pas de prendre parti. On n'est pas là pour dire si c'est le remède miracle ou une catastrophe annoncée. L'objectif, c'est juste de comprendre comment ce plan fonctionne.
Parce qu'il tente un truc fou, en fait.
Ah, ça oui. Il tente un mariage totalement improbable, fusionner un ultralibéralisme économique très assumé avec un filet de sécurité sociale universel. Donc, décortiquons un peu tout ça. Par où on commence face à un chantier pareil ?
Ben, ce qui est fascinant ici, c'est la promesse philosophique de départ. L'idée avancée par les auteurs, c'est qu'on peut libérer totalement l'énergie économique du marché tout en garantissant un socle de dignité inaliénable à chaque citoyen.
Donc, on n'a plus à choisir entre l'économie et le social, c'est ça ?
Usine à gaz bureaucratique, ce ne sont pas des fatalités. C'est juste des choix politiques qu'on peut défaire. Et la méthode qu'il propose pour y arriver, c'est littéralement la table rase.
À la fameuse table rase. Parlons-en de ce revenu universel de base. Le pilier 1 du document. Le principe, il tient en une ligne. Mais les implications sont massives. 850 euros mensuels, versés automatiquement dès 18 ans.
Avec juste une condition de résidence, hein ?
Ouais, c'est ça, la seule règle. C'est d'avoir 5 ans de résidence régulière. À part ça, il n'y a aucun jugement, aucun contrôle des revenus. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y a 3 voies d'utilisation prévues.
Tout à fait.
En gros, on peut vivre avec ce revenu seul. Ou alors, on peut le cumuler intégralement avec un salaire, sans perdre un seul centime de l'aide. Et la troisième voie, c'est qu'on peut obtenir un bonus civique de 300 euros si on s'engage dans une association, ce qui monte le plancher à 1150 euros.
C'est ça. Mais tu vois, cette simplicité absolue, elle a un coût immédiat. C'est la destruction méticuleuse de l'ancien système. Le plan chiffre cette suppression d'aide à plus de 176 milliards d'euros dès le premier jour.
Attends, 176 milliards supprimés d'un coup ? Mais comment ils arrivent à un chiffre pareil ?
Bah, si on décompose un peu, il y a près de la moitié de cette somme, donc environ 81 milliards, qui correspond aux aides individuelles directes. Ensuite, t'as près de 27 milliards qui partaient en subventions aux structures parapubliques et aux assos.
D'accord.
Et le reste, environ 68 milliards, ce sont les aides directes ou fiscales qui étaient versées aux entreprises. La logique, elle est d'une froideur mathématique. À partir du moment où ce revenu universel garantit la survie, l'État n'a plus du tout de légitimité à financer des milliers de petits dispositifs complexes.
Ces dispositifs qui essayaient de boucher les trous du système, quoi.
Exactement.
Pour bien visualiser le choc, moi j'ai une image en tête. C'est un peu comme si notre système social actuel, c'était un immense manoir en ruine.
Un manoir en ruine, ouais.
Un manoir historique, certes, mais rempli de couloirs labyrinthiques, de portes dérobées, avec des fuites d'eau partout. Et pour gérer ça, il faut une véritable armée de domestiques qui courent dans tous les sens avec des seaux pour éponger.
C'est une belle image.
Ce manoir, en fait, ce sont nos dizaines d'organismes sociaux actuels. La CAF, Pôle emploi, avec leurs formulaires et leurs conditions croisées. L'idée ici, c'est de tout raser au bulldozer pour construire à la place un simple bloc de béton armé. Une maison ultra simple, sans furiture, gérée par une seule agence nationale, l'ANRC.
Cette analogie du manoir labyrinthique, elle est très juste parce qu'elle touche vraiment au cœur du problème identifié par le texte, la bureaucratie humiliante. Actuellement, les stats montrent qu'environ 35% des personnes qui sont éligibles aux aides sociales ne les réclament même pas.
C'est dingue ça! Plus d'un tiers des gens qui ont droit abandonnent.
Ouais. Soit par honte d'aller faire la manche au guichet, soit tout simplement à cause de la complexité décourageante des démarches. Et en parallèle, l'État dépense environ 12 milliards d'euros par an uniquement en frais de gestion.
Ah ouais, donc c'est le coût de l'armée avec les seaux d'eau dans mon manoir, quoi.
C'est exactement ça. 12 milliards juste pour faire tourner la machine, vérifier les dossiers, traquer les erreurs et, au final, surveiller les plus précaires. En rendant ce revenu automatique, le taux de non-recours tombe immédiatement à zéro.
Et j'imagine que la fraude aux aides sociales disparaît aussi.
Bah oui, d'elle-même. Puisqu'il n'y a plus aucune condition complexe à contourner, il n'y a plus de fraude possible.
Ok, je comprends bien l'argument de la simplification pour les citoyens. Mais regardons l'autre côté de la médaille. On a mentionné tout à l'heure la suppression de 68 milliards d'aides aux entreprises.
C'est un gros morceau, ouais.
Bah oui. Si on coupe les vivres aux entreprises du jour au lendemain, on risque pas de provoquer une vague de faillite sans précédent. Enfin, comment le marché est censé absorber un sevrage pareil ?
Alors, c'est là que l'aspect purement libéral du plan entre en jeu. L'argument économique des auteurs est très clair. Une entreprise qui ne survit que parce qu'elle est sous perfusion d'argent public, c'est juste pas un modèle viable. Le marché doit faire le tri naturellement.
Une sorte de darwinisme économique, en somme.
Voilà. Mais en contrepartie, ce plan affirme qu'il offre aux entreprises un truc bien plus puissant que des crédits d'impôt. Il leur offre un marché intérieur dynamisé. En versant 850 euros à des dizaines de millions d'adultes chaque mois, on injecte un pouvoir d'achat massif et direct.
C'est vrai.
Les entreprises perdent leurs subventions, certes, mais elles gagnent des millions de clients solvables.
D'accord. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et que je me pose une question sur l'équilibre du plan. Parce qu'on libère le marché, on supprime les subventions, on crée des clients solvables. Ça ressemble au rêve ultime d'un capitalisme totalement dérégulé.
Sur le papier, oui.
Sauf qu'il y a une règle dans le pilier 2 qui m'a fait sursauter. C'est l'imposition d'un ratio salarial obligatoire. La fameuse règle du 1 pour 20.
Le grand garde-fou du projet.
C'est ça. Dans toute entreprise de plus de 10 salariés, la rémunération la plus haute ne peut pas dépasser 20 fois le salaire horaire le plus bas.
Exactement. Prenons un exemple chiffré pour bien piger le mécanisme. Si le salaire plancher dans une boîte, disons pour un agent d'entretien ou un manutentionnaire, il est à 1800 euros par mois.
Ok.
Eh bien, le dirigeant est mathématiquement plafonné à 36 000 euros par mois, ce qui fait 432 000 euros par an. S'il dépasse ce ratio, l'entreprise est lourdement pénalisée et doit reverser la quasi-totalité de l'écart à l'État.
Alors là, je vais me faire l'avocat du diable une seconde parce que c'est une friction majeure du texte. Si moi, je suis un grand PDG ou un talent de la tech très convoité et qu'on me dit que mon salaire est plafonné à 400 000 euros, je fais mes valises et je pars en Suisse ou aux États-Unis demain matin.
C'est la réaction typique.
Mais oui, c'est un suicide économique pour la compétitivité du pays, non ? C'est la fuite des capitaux assurés.
C'est une objection très classique et les documents qu'on analyse l'affrontent de manière ultra directe. Mmh. D'abord, sur le plan purement statistique, un revenu de 432 000 euros par an, ça place toujours ce dirigeant dans le top 0,01% des revenus à l'échelle mondiale.
Ouais, on parle pas vraiment de misère, c'est sûr.
Non, on paupérise pas les élites. Mais surtout, le plan avance un argument philosophique. Si un dirigeant décide de quitter le pays exclusivement parce qu'il peut pas gagner plus de 20 fois le salaire de son employé le moins bien payé, c'est qu'il privilégie une logique de prédation plutôt qu'une logique de performance collective.
D'accord. C'est une vision très morale de l'économie, au fond.
Complètement. Le mécanisme est pensé pour aligner les intérêts. Le seul moyen pour le patron de s'augmenter légalement, c'est d'augmenter la base de ses salariés.
Donc si la marée monte, tous les bateaux montent en même temps.
Exactement. Cela dit, il y a une nuance technique super importante dans le texte. Le plan prévoit une exception. C'est le statut de champion de l'export.
Ah, j'avais noté ça. Comment ça marche concrètement ?
En gros, si une entreprise crée une véritable richesse macroéconomique, avec une balance commerciale positive et des créations d'emplois locaux qui sont prouvées, elle bénéficie d'assouplissement. L'idée, c'est pas de punir la réussite, mais de faire en sorte que l'enrichissement extrême devienne un privilège conditionné à la performance réelle apportée au pays.
D'accord. Donc la mécanique salariale, elle est très encadrée. Mais il y a un angle mort énorme ici. On verse 850 euros de plus par mois à tout le monde.
Oui.
De 850 euros dès le mois prochain. Ou le supermarché de doubler le prix des pâtes. Enfin, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si tout le monde a plus d'argent, les prix explosent et l'inflation dévore ce revenu en quelques semaines.
C'est le risque fondamental, et c'est exactement pour y répondre qu'intervient ce qu'ils appellent le bouclier de vie.
Le fameux bouclier.
Voilà. Les concepteurs du projet reconnaissent que certains biens vitaux, on ne peut juste pas les laisser à la pure spéculation du marché libre. Ce bouclier instaure donc des contrôles de prix très stricts. Par exemple, un plafonnement des loyers. Il cite un prix fixé hypothétiquement à 18 euros le mètre carré dans les zones très tendues.
Ah oui, c'est très précis.
Il y a aussi un prix maximum garanti sur une cinquantaine de produits de première nécessité. Ça va des pâtes au lait. Et c'est calculé sur les coûts réels de production avec une marge plafonnée pour les distributeurs.
Ok, donc si je reprends une analogie pour y voir clair, c'est un peu comme le système de chauffage d'une maison. Le revenu universel, c'est la chaudière qui pompe de la chaleur pour réchauffer tout le monde.
Ouais.
Mais sans contrôle, la maison prend feu avec l'inflation. Du coup, le bouclier de vie, c'est le thermostat. C'est la limite légale qui empêche l'inflation de brûler le pouvoir d'achat qu'on vient juste de distribuer.
L'analogie du thermostat fonctionne super bien. À cela, ils ajoutent aussi la garantie d'un volume de base pour l'énergie à prix fixe et une CQ+, donc une couverture santé intégrale où t'as même plus besoin de mutuelle privée.
C'est énorme.
Mais là où ça devient vraiment intriguant, c'est quand on regarde comment financer ça à l'ère moderne. Le mécanisme le plus fou, c'est sans doute la taxe sur l'automatisation, la cotisation solidarité automatisation.
Oui, j'ai vu ça. Le projet prévoit de taxer le remplacement du travail humain par la machine, en particulier les intelligences artificielles.
C'est ça.
Mais mécaniquement, comment ça marche? Parce que c'est facile à dire, mais comment un inspecteur des impôts fait pour débarquer dans une boîte et prouver, genre avec des preuves solides, qu'un algorithme a remplacé exactement 3 comptables ou 2 graphistes? Ça a l'air d'être un cauchemar à calculer.
C'est le grand défi technique. Mais l'approche proposée ne se base pas sur des suppositions vagues. Ça repose sur des audits comptables ultra précis de réduction des coûts opérationnels.
C'est-à-dire?
Eh bien, si une entreprise déploie un logiciel d'IA et que l'année suivante, sa masse salariale dans ce département précis diminue considérablement, pendant que ses licences logicielles augmentent, l'État taxe une partie de cet écart, c'est-à-dire une partie de l'économie salariale générée. Il parle de, par exemple, 12% des économies générées.
Ah, je vois.
Et pour les robots industriels physiques, c'est encore plus simple. On taxe une fraction de leur valeur d'amortissement en tant qu'équivalent employé. Si l'on relie cela à la situation globale, c'est une manière géniale de repenser la fiscalité technologique.
C'est surtout une façon très habile de retourner le problème. Au lieu de voir l'automatisation et l'IA juste comme une menace terrifiante qui va détruire des millions d'emplois, on s'en sert comme moteur financier.
C'est exactement l'idée.
Plus l'IA détruit d'emplois, plus elle génère des économies pour les entreprises et plus ces économies sont captées pour financer le revenu des humains. Du coup, la cause du problème devient la solution.
C'est une tentative de créer une vraie boucle vertueuse. L'innovation technologique cesse d'être une angoisse sociale pour devenir le carburant direct de ce socle de sécurité.
Très bien. Bon, les mécanismes sont astucieux, mais il faut qu'on parle du mur de la réalité financière, le pilier 5. Je fais le calcul mental depuis tout à l'heure. Un revenu de 850 euros pour plus de 50 millions d'adultes, ça coûte plus de 582 milliards d'euros par an.
Un sacré budget.
C'est colossal. On a dit qu'on récupérait 176 milliards en rasant l'ancien système d'aide. Ok, mais il manque encore plus de 400 milliards. On ne les trouve pas sous le canapé. Comment ce plan évite la faillite pure et simple du pays ?
C'est là que la réforme fiscale globale entre en jeu pour combler l'écart. Les modélisations financières du projet montrent qu'en combinant plusieurs leviers, on y arrive très bien. Outre les 176 milliards d'aides supprimées, t'as les économies massives de gestion administrative en fusionnant tous les organismes.
Les fameux 12 milliards du manoir.
Voilà. Ensuite, il y a une harmonisation de l'impôt sur les sociétés, un taux réel de 20%, en supprimant toutes les niches fiscales qui permettaient aux très grands groupes de le presque rien payer.
D'accord.
Il y a aussi la récupération via l'impôt sur le revenu. Comme le revenu de base est imposable pour les tranches les plus riches, une bonne partie de l'argent versé aux plus aisés revient automatiquement dans les caisses de l'État.
Logique.
Et enfin, les nouvelles taxes, comme celle sur l'automatisation dont on vient de parler. Au final, les projections avancent que l'ensemble dégagerait même un excédent budgétaire de 7 milliards d'euros en vitesse de croisière.
Ok, en vitesse de croisière, d'accord, ça tient mathématiquement. Mais il y a forcément une période de transition. On passe pas d'un système à l'autre en un week-end sans heure. J'ai lu qu'il prévoyait un déficit massif les 5 premières années, le temps que tout se mette en place. Comment on finance ce trou géant au démarrage ?
Pour franchir ce cap transitoire, le plan s'inspire d'un mécanisme très récent de l'histoire économique. Il propose l'émission d'un pacte bond sur 30 ans.
Un pacte bond ? On peut clarifier ça ? C'est comme les obligations sûres qu'on a vues pendant le Covid ?
L'inspiration est ultra directe, ouais.
Mais concrètement, pour le citoyen lambda, ça marche comment ?
En termes simples, une obligation d'État, c'est l'État qui emprunte de l'argent sur les marchés financiers en promettant de le rembourser avec des intérêts plus tard. Pendant la crise du Covid, l'Union européenne a émis des obligations appelées « sûres » pour lever 100 milliards d'euros en un temps record.
C'était pour financer le chômage partiel de mémoire.
Exactement. Et l'argumentaire du pacte, il est implacable. Si les marchés financiers ont été capables de s'endetter massivement pour littéralement geler l'économie mondiale et payer les gens à rester chez eux pendant une pandémie...
Ils peuvent bien financer un investissement structurel sur quelques années.
Bah oui, surtout si cet investissement il est adossé à une loi organique, c'est-à-dire une loi fondamentale qui garantit le retour à l'équilibre à moyen terme.
D'accord, donc en gros, on emprunte pour construire la nouvelle plomberie, et une fois qu'elle fonctionne, elle s'autofinance toute seule.
C'est tout à fait ça.
Bon, sortons un instant de la pure ingénierie financière. Il y a un obstacle qui n'est pas mathématique, mais moral. C'est l'argument classique du citoyen sceptique que l'on entend partout dans les débats.
Ah, la question de la valeur travail.
Voilà. En gros, le citoyen qui dit « Moi, je me lève tous les matins à 6 heures pour faire un travail difficile. Pourquoi est-ce que mes impôts devraient financer mon voisin qui va juste prendre ses 850 euros et décider de jouer aux jeux vidéo toute la journée ?» C'est une réaction super viscérale, très ancrée chez nous.
C'est clair que c'est l'objection la plus répandue face à toute idée de revenu inconditionnel. Mais le guide anti-détracteur y répond en s'appuyant sur des données empiriques, des expériences passées.
Qu'est-ce qu'elles disent ces données ?
Si l'on regarde des expérimentations réelles, comme celles menées en Finlande entre 2017 et 2018.
Ou même diverses initiatives en Californie.
Les données montrent que le taux d'emploi ne s'effondre pas du tout. Au contraire, il a tendance à augmenter légèrement, entre 3 et 8%.
Attends, vraiment ? Donner de l'argent gratuit fait augmenter l'emploi ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que 850 euros, dans l'économie réelle d'aujourd'hui, c'est un seuil de survie strict. Ça paie des pâtes et une petite charble, mais personne ne s'achète une voiture de sport ou ne vit dans le luxe avec ça. Le mythe du chômeur roi, il tient pas face aux chiffres.
En fait, c'est parce que ça supprime le fameux effet de seuil de notre système actuel.
C'est le cœur du problème actuel, oui.
Oui, aujourd'hui, si vous êtes au RSA et qu'on vous propose un petit contrat de 3 jours, vous hésitez carrément, parce que vous risquez de perdre vos droits, de devoir refaire des dossiers administratifs pendant des mois, d'avoir des trous de trésorerie. C'est une véritable terreur administrative qui paralyse les gens.
Exactement. Le revenu inconditionnel, lui, il agit différemment. Ce n'est pas un hamac qui encourage la paresse, c'est un trampoline.
Un trampoline ?
Oui. Si l'on vous garantit la base de survie quoi qu'il arrive, soudainement, vous êtes libre de prendre un risque. Vous pouvez accepter un mi-temps pour vous reformer ou oser créer votre propre petite entreprise parce que vous avez la certitude absolue de ne jamais tomber à zéro.
C'est un sacré changement de paradigme.
Et sur le plan purement philosophique, le texte pose aussi une question qui dérange. Si ce fameux voisin, il décide de se contenter de ses 850 euros pour, disons, s'occuper de ses enfants en bas âge ou assister un parent vieillissant, malade. Est-ce que c'est véritablement une perte de productivité pour la société dans son ensemble ?
Ah, c'est une façon radicalement différente d'évaluer ce qui est utile à la collectivité, en effet. Alors qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? On a exploré la destruction de la bureaucratie, le plafonnement des salaires avec le 1 pour 20, l'impôt sur les algorithmes, les paris budgétaires. Mais si l'on prend un peu de hauteur, c'est quoi l'essence même de ce projet ?
Si on devait synthétiser le vrai changement que propose ce pacte, c'est le passage d'une société de la suspicion à une société de la confiance.
De la suspicion à la confiance.
Ouais. Notre système social actuel, il part du principe qu'il faut se méfier de tout le monde. Le citoyen, il doit prouver qu'il est assez pauvre, prouver qu'il cherche un emploi, fournir des justificatifs en permanence. Et de l'autre côté, l'entreprise doit remplir des dossiers complexes pour prouver qu'elle mérite une petite subvention.
C'est l'infantilisation généralisée.
Voilà. Ce projet, il propose d'arrêter de mettre des pansements sur des fractures. Il parie sur le fait de distribuer les ressources directement, sans intermédiaire, en faisant confiance à la capacité d'auto-organisation des individus et du marché. Tout en posant, bien sûr, des limites de sécurité claires, comme le ratio salarial ou le contrôle des prix vitaux.
Et ça nous amène à une réflexion finale très puissante, inspirée par la conclusion de ces documents. Historiquement, chaque fois qu'une grande mutation sociale a été proposée, elle a été qualifiée de folie.
À chaque fois, oui.
Quand la sécurité sociale a été inventée en 1945, dans un pays pourtant ruiné par la guerre, tout le monde a hurlé à l'utopie irréalisable. Même chose quand on a imposé l'école gratuite pour tous. Et aujourd'hui, personne ne remettrait ces institutions en question.
C'est devenu l'évidence.
L'analyse de ces documents montre que remplacer notre manoir bureaucratique en ruine par une architecture simplifiée, eh bien sur le plan strictement mathématique et législatif, c'est réalisable. Les chiffres sont là.
Les chiffres tiennent, oui.
Donc la véritable question avec laquelle il faut repartir après cette écoute, c'est pas de savoir si ce plan précis est parfait. Il y aura toujours des failles. Non, la question c'est celle-ci. Est-ce que la véritable utopie réaliste, ce n'est pas de croire aveuglément que notre système actuel, avec ses 9 millions de pauvres, ses labyrinthes administratifs épuisants et ses milliards gaspillés en contrôle,
peut continuer à fonctionner
éternellement sans finir par s'effondrer sur lui-même. À méditer.